Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Bonjour. Il n'y a pas de prison à Montpellier depuis l'ouverture en 1990 de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones. On l'oublie, si ce n'est quand on passe sous ses murs pour aller à Frontignan ou à Sète. Il y a donc des détenus, plus de 800, à quelques kilomètres. Certains sont récemment sortis ou en passe de le faire. Comment peuvent-ils trouver leur place dans la société par une réinsertion durable sans récidive? Pour nous en parler, j'ai invité Delphine Petit, responsable du Wake Up Café de Montpellier. Elle va nous dire ce qui se cache à Montpellier sous cette dénomination anglaise. Delphine Petit, vous avez concrétisé votre engagement personnel dans la solidarité, d'abord comme bénévole pour Emmaüs France et pour les petits frères des pauvres. Vos choix professionnels ont confirmé cette orientation quand votre licence professionnelle de métier de la gestion des associations en poche, vous avez rejoint Wake Up Café, d'abord à Meudon, puis à Montpellier en mars 2020. Comme le veut la formule de l'émission, dans un premier temps, racontez-nous votre Montpellier. Alors, vous habitez Montpellier depuis 2 ans et demi. Vous sentez-vous Montpelliéraine et en quoi ?
Bonjour. Du coup, oui, ça fait 2 ans et demi que je suis sur Montpellier. Je me sens Montpelliéraine. Alors, avant tout, je suis quand même parisienne, j'avoue. J'ai vécu 26 ans à Paris. Et bientôt 3 ans, quand même, à Montpellier.
D'accord. Et quand vous avez... quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit pour parler de Montpellier, pour évoquer un peu le style, l'ambiance montpelliéraine ?
Je dirais le soleil, avant tout. Parce que c'est vrai qu'à Paris, alors on a du soleil, mais pas de la même manière qu'à Montpellier. Et ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est une vie de village un peu. À taille humaine, chose qu'on retrouve.
Oui, à Paris, c'est bien sûr plus compliqué.
Exactement.
Quoi. D'accord. Et cette douceur de vivre, là, cette ambiance, ou peut-être ce que j'appelle un plaisir, quoi, un hédonisme montpelliérain, là, vous le partagez, j'imagine.
Oui, complètement. Complètement. Et c'est vrai que je suis toujours contente, par exemple, de rentrer à Paris.
Oui.
Je suis toujours très contente.
De revenir
à Montpellier.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des lieux que vous aimez particulièrement, pas nécessairement les plus connus, dans vos activités, dans vos loisirs ?
Alors, bon, il est assez connu, mais c'est vrai que je suis toujours émerveillée, soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil, de passer au niveau de l'Arc de Triomphe,
oui.
Et du coup de la lumière qui se reflète sur le tribunal, sur les bâtiments. Et c'est toujours un endroit que je trouve absolument magnifique.
Très bien. Et en fait, dernière question, là, puis après on en viendra à l'essentiel du sujet. Quand vous recevez des amis ou des membres de votre famille qui viennent à Montpellier, que leur dites-vous ? Comment leur présentez-vous la ville ?
Eh bien alors, très souvent, ils viennent de Paris.
Ouais.
Donc je leur dis que ça va être très différent. Je leur dis que quand on est en été, on peut aller à la plage, chose qui n'est pas forcément pareille à Paris, ça va vraiment leur permettre de se poser, que dans le centre-ville, il n'y a pas de voiture. Ça, c'est assez extraordinaire. Et je sais que j'ai plusieurs de mes proches qui ont déménagé à Montpellier après que je sois venue.
Donc, ils ont été séduits par la ville.
Exactement.
Bon, ils y ont trouvé du travail, j'espère.
Oui.
D'accord. Alors, cette petite séquence introductive étant passée. Wake Up Café, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Puis on verra ce que vous faites. Et pourquoi cette domination là, anglo-saxonne là ?
Alors, Wake Up Café, pourquoi est-ce qu'on appelle cette association Wake Up Café ? Wake Up, c'est le réveil, du coup, en anglais. L'idée, c'est de réveiller les personnes qu'on accompagne. Et le café, c'est quelque chose qui est très convivial et qui est souvent servi aussi en détention. Et donc, l'idée, c'était de mélanger ce côté anglais.
Cette ouverture, cette incitation et puis l'aspect relation, quoi, hein, rencontre.
Oui, exactement.
D'accord. Alors, quelle est la raison d'être de cette association ? Parce qu'il y a d'autres associations, d'autres formules d'accompagnement, soit de détenus, soit de gens récemment sortis de détention. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise Wake Up Café et identifie la manière dont vous intervenez dans ce champ-là ?
Alors, Wake Up Café, c'est une association qui accompagne des personnes en détention et à l'extérieur. Donc, on a cette particularité de faire du dedans-dehors. On accompagne sans limite de temps les personnes, qu'on appelle les wakers d'ailleurs.
Sans limite de temps dans la durée de l'accompagnement ?
Oui, exactement.
D'accord.
En fait, l'idée, c'est qu'une fois ceux qui sont réinsérés puissent aider ceux qui viennent de sortir de prison. Donc, du coup, c'est vrai que ce champ de sans limite dans le temps peut être assez rare en termes d'accompagnement. En plus de ça, on fait à la fois de l'individuel et à la fois du collectif. Donc l'individuel, c'est un accompagnement global qui est fait pour essayer de répondre à tous les besoins que peuvent rencontrer les wakers. Et collectif, l'idée, c'est vraiment de former une communauté d'entraide où on peut s'appuyer les uns sur les autres et avancer ensemble.
D'accord. Donc il y a une espèce de fil là, qui se crée, enfin de mouvement qui se perpétue au-delà de votre intervention dans tel ou tel détenu ou prisonnier récemment libéré, et au-delà, quoi, de créer cette espèce de je ne parle peut-être pas le bon, de diaspora, en tout cas, ou de lien, ou de communauté, qui, là aussi, à vos yeux, caractérise Wake Up Café. Ouais.
C'est ça, exactement. En fait, l'idée, c'est de ne pas les lâcher. C'est souvent ce qu'on leur dit quand on les rencontre. Si tu es motivé et que tu as vraiment envie de t'en sortir, tu vas avoir une équipe derrière toi qui ne va pas te lâcher et qui t'amènera le plus loin possible.
D'accord. Alors, j'imagine que cette manière de penser, de concevoir l'association et de la mettre en œuvre est la résultante du constat qui est fait sur la problématique, peut-être pas la problématique générale de la détention, mais de la réinsertion. Ça s'appuie, j'imagine, sur, en tout cas quand l'association a été créée en 2014, c'est bien ça. C'est parti, j'imagine, de ça, voilà, d'une analyse.
Oui, en fait, la fondatrice de l'association est Clotilde Gilbert et elle a été aumônier de prison pendant 8 ans à la maison d'arrêt de Nanterre dans le 92. Et c'est par le constat qu'elle a fait pendant 8 ans qu'elle a décidé de créer Wake Up Café, au début avec des connaissances de chefs d'entreprise qui lui ont dit « si tu fais quelque chose, nous on t'accompagne ». Et donc en fait, à la base, on était vraiment là pour aider à trouver du boulot à des personnes qui sortent de prison. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ça ne suffisait pas juste de trouver du boulot. Et c'est là après qu'on a intensifié et du coup structuré l'accompagnement qu'on proposait.
D'accord.
Et donc très souvent, en fait, notre partenaire principal, c'est le SPIP, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation.
Qui est un service donc de la pénitentiaire, de l'administration pénitentiaire, dévolu à cette phase, à cette charnière entre le départ proche de la prison et l'insertion personnelle, professionnelle, sociale. De l'ancien détenu, c'est ça.
Exactement.
Et, ça se passe bien, là, les relations avec l'administration pénitentiaire ?
Très bien.
De quel œil voit-il vos interventions ?
Très bien. En fait, on est conventionné nationalement avec la DAP, qui est la Direction de l'administration pénitentiaire. Et après, chaque site est conventionné généralement de manière départementale ou locale avec les SPIP concernés. L'idée, en fait, c'est vraiment d'être au service du SPIP. Donc, chaque personne qui est placée sous main de justice a un CPIP, un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est vraiment, en fait, la personne référente du parcours du bénéficiaire. Et on est vraiment à disposition des CPIP pour aussi être un relais et accompagner sur certains champs les personnes.
Mais est-ce à dire que vous compensez, je dirais, les faiblesses ou les insuffisances du SPIP en termes, de moyens, ou c'est, à contrario, je dirais, la spécificité de votre approche par rapport à celle d'un service public officiel qui donne du sens, je dirais.
En fait, ce n'est pas une question de compenser. L'idée, c'est d'être complémentaire. On a la capacité, une fois que les personnes sont sorties de prison, de pouvoir les accueillir à temps plein, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, dans une maison à Montpellier et dans 7 autres villes, en
oui.
France.
Oui, j'ai vu Code Make-up et SME, là, qu'il y a des nouvelles créations locales ces derniers temps.
Exactement. Et donc, c'est vrai qu'on a cette capacité de pouvoir les accueillir. Donc, finalement, c'est extrêmement complémentaire. Comme je vous disais aussi au début, le fait qu'on soit sans limite dans le temps, même quand le suivi judiciaire s'arrête, on peut, en fait, continuer à accompagner. Donc, c'est vrai qu'il voilà, y a vraiment une part de complémentarité. Et encore une fois, on est au service du SPIP pour accompagner ce public en commun.
Alors, il est temps que vous nous disiez ce que sont vos différentes activités, en tout cas localement, pour qu'on voit concrètement comment vos objectifs de facilitation d'une réinsertion durable et solide se mettent en œuvre.
Alors nous, du coup, la plupart du temps, on rencontre les personnes quand elles sont encore incarcérées, avec l'autorisation du CEPIP à chaque fois.
Donc vous faites une offre.
Alors en fait, soit c'est les personnes qui nous écrivent
en
courrier.
Il y a des demandes spontanées qui viennent vers vous.
Et du coup, nous, on prend contact avec le CEPIP référent du milieu fermé, donc de la prison, pour voir s'il est possible ou pas de rencontrer la personne, si c'est pertinent, si ça rentre en accord avec le projet de sortie. Si c'est OK, on va rencontrer la personne en parloir avocat. Et suite à ça, on demande à la personne de revenir vers nous avec une lettre qui, justement, explique un peu qu'est-ce qu'elle a compris de Wake Up Café, à quoi elle s'engage.
D'accord. Pour vérifier la compréhension de ce que vous pouvez apporter et, comme je viens de le dire, la réalité de l'engagement, en tout cas de l'orientation que prend la personne. Ça peut se résumer comme ça.
Exactement. En fait, nous, on appelle ça lettre d'engagement. Donc, voilà. C'est exactement ça. À partir du moment
donc, il peut y avoir un constat où ça ne colle pas.
Il peut y avoir,
ça arrive, j'imagine.
Oui, bien sûr, où nous, on ne sent pas une réelle motivation à s'en sortir. Ou alors, tout simplement, la personne ne nous écrit pas aussi suite au parloir.
Il n'y a pas de suite. Quoi.
Parce que, voilà, elle n'a pas envie de donner suite à l'accompagnement proposé.
D'accord.
Ensuite, à partir du moment où on acte l'accompagnement avec le CEPIP et la personne, soit on peut s'inscrire dans le cadre d'une demande d'aménagement de peine, soit dans le cadre d'une sortie sèche, donc sans accompagnement à la sortie, en tout cas judiciaire. Et une fois que la personne est sortie de prison, en fait, elle intègre du coup l'association, donc ce que je vous disais tout à l'heure.
D'accord, alors. Je vous interromps. Aménagement de peine, ça correspond à quoi ? Une facilitation de la préparation du départ quand la personne est détenue, c'est ça ?
En fait, l'aménagement de peine, c'est pouvoir permettre à la personne détenue de finir sa peine avec une contrainte. Donc ça peut être un bracelet électronique,
d'accord.
Ça peut être un placement en semi-liberté avec des obligations, parfois des interdictions. Et en fait, c'est du coup, ça permet d'ouvrir vers la sortie, mais tout en étant toujours placé sous main de justice, en fait.
Donc, cet aménagement de peine, il résume des décisions de la justice, je suppose.
Juge d'application
voilà, en lien avec la personne, son avocat et le SPIP. Hein, d'accord.
Exactement. Donc, une fois que la personne est sortie, on l'accueille du coup du lundi au vendredi où elle suit un parcours à temps plein. Donc nous, on appelle le parcours de réinsertion Wake Up Café, avec tous les matins des ateliers qui sont tournés vers l'emploi. Le midi, on fait des déjeuners tous ensemble et ça fait vraiment partie de l'accompagnement. Et l'après-midi, on fait des ateliers sur la reconstruction de soi. L'idée, c'est que tant que la personne n'est pas en emploi, en formation, ou retrouve une activité, elle continue de suivre ce parcours à temps plein, qui du coup, en plus des ateliers collectifs, est couplé d'entretiens individuels pour mettre à jour sa situation administrative, pour mettre à jour sa situation au niveau de l'emploi. On a une psychologue aussi qui peut les recevoir pour...
Oui, on parlera des compétences que vous réunissez là autour de vous. Donc, ce cheminement... Il appelle de votre part différentes formes d'accompagnement dont nous allons parler, mais il suppose aussi que la personne en question joue le jeu, quoi. Elle le fasse de manière régulière et continue. Et pas,
d'où le premier entretien qui est hyper important, pour bien lui expliquer aussi à quoi elle s'engage. Parce que c'est pas forcément... Il y en a qui n'ont pas forcément envie de se dire qu'ils vont suivre un parcours à temps plein avec des horaires à respecter à la sortie de prison. Et donc c'est pour ça que lors de ce premier entretien, l'idée, c'est vraiment d'expliquer comment ça va se passer et de leur dire aussi qu'est-ce que nous, on va attendre d'eux et qu'est-ce qu'eux vont pouvoir attendre de nous.
Pour qu'il y ait un accord réel, je dirais, une confiance mutuelle peut-être, qui s'installe.
Oui.
Et donc avec, j'imagine, là aussi des échecs ou des accompagnements qui peuvent tourner court parce que ça ne colle pas pour une raison ou pour une autre.
Oui, bien sûr.
D'accord. Autre forme d'action, la préparation de la sortie, donc il y a la partie emploi. Donc l'emploi, c'est quoi ? C'est rechercher les sources d'offres d'emploi, c'est apprendre à faire son CV, c'est se préparer à l'entretien d'embauche, des choses comme ça, j'imagine.
Exactement, oui. Il y a différents ateliers qu'on peut proposer. On parle autant d'appréhender les codes de l'entreprise, qui ne sont parfois pas forcément connus, de comprendre aussi le code du travail, des simulations d'entretien d'embauche, faire un CV, faire une lettre de motivation. Parfois, c'est aussi juste créer son projet professionnel, parce qu'il y en a parfois qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont pas du tout d'idée de ce qu'ils veulent faire. On va aussi visiter des entreprises. Parfois, on a des entreprises aussi qui viennent pour faire des présentations métiers. Donc, ça peut être très varié au niveau de l'emploi.
D'accord. Autre activité que vous conduisez, bon ça c'est, j'imagine, c'est le gros morceau de vos tâches. Il y en a d'autres activités que vous pouvez développer à Montpellier notamment.
Au niveau des ateliers ?
Oui, ou les ateliers ou autre forme.
On a deux accompagnements de groupe aussi qui sont par mois, qui ont lieu le soir et qui font vraiment en fait vivre ce que je vous disais au début, cette communauté d'entraide qu'on a. Donc le premier mercredi du mois, d'ailleurs c'est ce soir, on fait un wake-up dîner. Donc c'est un grand dîner où on réunit toute la communauté de l'association. Donc les wakers, donc ceux qui sont en emploi, ceux qui sont en parcours, les bénévoles, l'équipe. Parfois on invite aussi des partenaires. Et l'idée, c'est de mettre en avant toutes les réussites qu'il y a eu dans le mois concernant les wakers.
Oui.
Donc, du coup, on applaudit beaucoup pendant ce dîner. C'est toujours hyper sympa.
Pour marquer les progrès, pour marquer
Exactement.
Les avancées. Pour...
D'accord. Exactement. Donc ça, c'est le wake-up dîner. Et le troisième mercredi du mois, on fait ce qu'on appelle un wake-up planet. Et donc là, c'est différent. Donc il n'y a vraiment que les wakers, un coach, une ou deux personnes de l'équipe. Et là, l'idée, ça va être vraiment de se mettre comme en groupe de parole. Donc nous, on appelle ça plus un groupe d'entraide. Et ça va être de parler de sujets qui sont en lien avec la réinsertion. Et c'est très souvent ce qu'on leur dit quand on les rencontre pour la première fois. Ton expérience de sortant de prison, il a de la valeur pour celui qui sort après toi. Et en fait, pendant ce groupe de parole, justement, on va parler par exemple des addictions. On va parler des droits et des devoirs, de la famille, des relations hommes-femmes. Et de se dire, toi, ce que tu as connu, peut-être que le gars à côté de toi, en fait, il est sorti hier et il va avoir besoin de tes conseils par rapport à ces sujets-là. Et c'est vraiment lors de ces Wake Up Planet qu'on va pouvoir aborder ces thèmes et s'entraider de cette manière-là.
La question du logement est abordée, j'imagine, parce qu'elle est probablement décisive. Et c'est pas très compliqué.
Si, c'est très compliqué le logement. C'est, malheureusement, on n'a pas de baguette magique concernant le logement. Donc on a...
Mais ça tient, les difficultés tiennent à la faiblesse de l'offre ou elles tiennent à la difficulté même pour un bailleur de signer un contrat de location avec un ancien détenu. Est-ce que les blocages sont généraux? On sait qu'il y a des difficultés d'accès à un logement correct et à un prix abordable.
Je pense pas que ça soit une question du bailleur qui ait du mal à signer un contrat avec un sortant de prison, parce qu'en fait, il le sait pas qu'il sort de prison finalement la personne. Je pense que c'est un peu le problème du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que il faut un emploi pour trouver un logement et il faut plus ou moins un logement pour trouver un emploi. Donc on est vite face à un mur quand il s'agit de trouver ça. Après, on a plein de partenaires aussi. Tout ce qui est CHRS, donc Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le SIAO, etc., qui va pouvoir permettre de permettre aux personnes qui sont suivies d'accéder à des logements, on va dire, temporaires ou d'urgence. C'est un peu la course aussi. Finalement, qu'on sorte de prison ou pas, le logement, c'est quand même toujours très compliqué.
Ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est que les difficultés là, que vous vous efforcez de traiter, d'autres personnes ne les connaissent. Quoi, chômage de longue durée, rupture familiale, pépins, boîte plante, etc. Et après, les difficultés de retrouver un emploi, de trouver un logement à un prix accessible et tout, se posent dans des conditions assez similaires. Alors, parlez-moi de les gens qui vous entourent, de votre équipe, là, qui, à titre permanent ou à temps partiel, vous accompagne et intervient auprès des Wakers, puisque Wakers, il y a.
Exactement. Donc, nous, on est 8 dans l'équipe. On a un responsable pédagogie et du développement. Après, on a chargé d'insertion et chargé d'emploi. Donc, c'est ceux qui vont vraiment s'occuper de manière individuelle des personnes qu'on accompagne, autant sur les questions de l'insertion en général, autant sur les questions du coup de l'emploi. On a un responsable des parcours aussi, donc c'est lui qui va justement mettre en place tous les ateliers, rencontrer les intervenants et du coup faire vivre la communauté des bénévoles, parce qu'on a une cinquantaine de bénévoles qui agissent dans l'association. Et ensuite, on a des stagiaires services civiques qui vont s'occuper d'aider sur ces missions.
Et alors, ces personnes-là qui sont mobilisées, comme vous nous l'expliquez, quels sont leurs profils, leurs formations ou en tout cas ce qui leur donne capacité à bien faire ce travail particulier, quoi.
Alors, on a la particularité à Wake Up Café de tous venir pratiquement de milieux extrêmement différents. Rares sont ceux qui ont un diplôme, par exemple, de travailleur social. Alors, on en a quelques-uns. Mais c'est pas forcément sur ça qu'on va recruter. Donc on en a qui sortent de Sciences Po, on en a qui sortent d'écoles de commerce, d'autres de l'économie sociale ou solidaire. Donc pour le coup, on a vraiment des profils extrêmement variés.
J'ai fureté dans le site internet national de Wake Up. Ce qui est frappant, c'est plein de jeunes. Les 20-30 ans là, qui sont très nombreux. Peut-être d'ailleurs plus de filles que de garçons. C'est assez juste, ça, la communauté que constituent les salariés, en définitive, de l'association.
Oui, c'est vrai qu'on est une équipe plutôt jeune, en réalité, mais c'est partout, sur tous les sites Wake Up Café. Et c'est vrai qu'on est plus de filles que de garçons. Mais ça, finalement, j'ai l'impression, beaucoup de métiers du social,
ça revient quand même beaucoup. Ça mériterait une réflexion, un débat, mais bon. Ouais. Comment êtes-vous financé ?
Alors, on est financé à 50% par du privé. Donc, j'entends fondation d'entreprise, fondation familiale.
Un grand nombre.
Grand donateur, exactement. Entreprise aussi, adhésion. Et à 50% par du public. Donc, l'État, le ministère de la Justice.
Des subventions qui arrivent de l'État ou des collectivités locales.
Exactement.
D'accord. Alors, vous le mettez en avant. Je pense que les auditeurs se posent la question. Que peut-on dire des résultats ou des bénéfices, appelons ça comme on veut, de votre action, là. Comment vous le résumez ou peut-être vous le mesurez?
Alors, pour parler en tout cas de Wake Up Café à Montpellier, depuis le début, on a accompagné à peu près 90 personnes. Aujourd'hui, on en accompagne encore sur les 90, une grosse cinquantaine. On a en tout cas des chiffres qu'on a, un taux de retour en détention qui est de 8,2, je crois, %.
Et qui est inférieur aux moyennes habituelles
c'est un peu difficile à chiffrer. Comparable, ouais. En fait, parce que on peut parler aussi de recondamnation. Ça fait 2 ans et demi qu'on existe, donc on n'a pas aussi assez de recul, en tout cas sur Montpellier, pour se comparer. Donc c'est un peu compliqué de comparer aux chiffres nationaux. À côté de ça, on a pas mal de taux de sortie positive, en tout cas. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête.
Qu'est-ce que vous appelez taux de sortie positive ?
C'est un waker qui est en emploi.
D'accord.
Ou en formation.
À taux de sortie de l'accompagnement, d'accord.
Exactement.
Pas de sortie de la prison.
Non.
D'accord. Donc là, oui, parce que ça permet de... En plus, on sait quelle est la situation de l'emploi, donc on l'a évoqué à propos du logement, c'est pas nécessairement facile. Est-ce que vous vous heurtez à ceux qui parlent de prison 3 étoiles et qui considèrent, en l'exprimant de manière plus ou moins brutale, que tout ça, cet accompagnement, c'est du temps et de l'argent perdu? Vous rencontrez ce genre d'attitude ou de réaction autour de vous ou...
Alors, oui, je le rencontre, mais je rencontre aussi plein de personnes qui ne pensent pas de la même manière. Personnellement, je pense que... Ce travail, en tout cas, d'accompagner des personnes qui sortent de prison, c'est finalement un travail de société et c'est un enjeu. Aujourd'hui, s'il y a de la récidive, alors c'est pas que, mais c'est aussi parce que parfois on laisse pas la chance à ceux qui ont purgé leur peine finalement en détention. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un enjeu de société, c'est-à-dire que c'est aussi notre rôle à tous de se dire, bon bah voilà, ok, j'accepte, je sais que cette personne a fait de la prison, mais ok, j'accepte de l'embaucher, je sais que cette personne a peut-être pas 3 fiches de paye parce qu'elle sort de prison, bah ok, je peux la loger. Enfin voilà, c'est de faire tomber aussi un peu les stéréotypes qui sont que ceux qui sont en prison sont tous des grands méchants qu'on n'a pas envie d'aider.
En tout cas, si je comprends bien, il y a l'idée qu'il faut rassembler les conditions de la réussite, de la réinsertion, c'est ça, hein. Oui. Il y a ceux qui tiennent la personne concernée, bien sûr, au premier chef, et il y a l'accompagnement, qu'il soit, je veux dire, officiel, institutionnel, le SPIP, ou apporté par des associations comme la vôtre, quoi. C'est-à-dire, en gros, de leur donner leur chance, peut-être. Mais c'est encore que le chance, c'est pas le mot exact, quoi, de rassembler les éléments constitutifs d'un redémarrage, oui.
Exactement, et de pouvoir les accompagner au mieux, sans jamais oublier, et ça je trouve important de le préciser, que parfois il y a des victimes, et l'idée c'est pas de les oublier. L'idée c'est de faire en sorte que cette personne, elle ait toutes les chances de son côté pour justement pas récidiver et pas recommencer. Et en tout cas c'est la manière qu'on a trouvé, en tout cas nous, pour accompagner ces personnes.
Alors, ce n'est pas chaque fois simple, pas tous les jours simple, j'imagine. Non. Quel type de difficultés vous êtes amené à affronter, à traiter de manière plus ou moins facile?
Alors, vous en avez parlé tout à l'heure déjà, mais il y a la question du logement qui n'est pas forcément toujours évidente. Parce que du coup, savoir que les personnes qu'on accompagne parfois dorment dehors, ce n'est pas forcément toujours facile. Il y a une question aussi au niveau des addictions. On a beaucoup qui souffrent d'addiction, pour le coup en tout genre. On peut se retrouver aussi parfois, en fait, là où c'est compliqué, c'est quand la personne va, par exemple, additionner les problématiques, oui. Donc pas de logement, addiction, souffrance pathologique. Et donc, du coup, de devoir tout un peu régler en même temps. Et ça me fait penser aussi... Une personne qui sort de prison, en fait, parfois, il y a vraiment un éventail de choses qu'il faut toutes faire avancer en même temps. Et donc, c'est aussi réussir à se dire que pour réussir B, il faut réussir A, mais pour réussir A, il faut peut-être réussir C. Et donc, en fait, d'aider la personne à résoudre tous ces problèmes en même temps, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et en plus, c'est ce qu'on leur dit... toi, tu vas faire 95% du taf, nous, on en fera 5%. Donc, il faut aussi que la personne ait cette réelle motivation à vouloir s'en sortir, parce que du coup, on ne fera pas à sa place.
Et cette motivation, elle est le fait de détenus moins marqués par la prison, avec une détention moins longue ou plus jeune ou pas vraiment.
Donc, ça dépend.
Cette capacité de trouver en soi le ressort là, pour redémarrer.
C'est hyper aléatoire. Il y en a qui vont avoir un déclic très tôt. Il y en a qui ont besoin de nombreuses années de prison et nombreuses incarcérations pour avoir un déclic. Souvent, c'est les enfants aussi qui créent ce déclic.
Ah oui.
De se dire, c'est la première peine que je fais en étant père ou en étant mère. Et donc, il y a souvent un déclic qui se fait à ce moment-là. Et il y en a qui, à 20 ans, se disent, mais en fait, c'est pas cette vie que je veux. Et qui ont leur déclic à ce moment-là. C'est D'accord. très varié.
Alors, ça veut dire quand même que pour l'équipe que vous animez, ça demande une solidité, je dirais. Bon, pas simplement, je dirais, de l'attention, de la bienveillance, mais une capacité à faire face psychologiquement et collectivement, j'imagine, dans l'équipe, à des situations qui sont parfois compliquées. Hein, on va pas...
Complètement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une psychologue pour les personnes qu'on accompagne, mais on a aussi une supervision d'équipe. Par exemple, toutes les 6 semaines, on voit, nous, une psychologue pour pouvoir discuter et retravailler des situations.
Alors, on arrive au terme de cette rencontre, Madame Petit. J'imagine qu'il est possible de vous apporter une aide, qu'il s'agisse de fournir de l'argent, de se proposer comme bénévole. Vous pouvez nous en dire un mot et donner un contact là, pour celles des auditeurs et auditrices que ça intéresserait?
Complètement. Donc, comme vous dites, il y a plein de manières de nous aider. Il y a bien évidemment les dons financiers, mais il peut y avoir aussi les dons matériels. Il peut y avoir aussi de se dire, j'ai une entreprise et pourquoi pas embaucher un waker. On peut aussi se dire, j'ai un talent particulier ou alors je souhaiterais animer un atelier dont c'est mon domaine de compétence. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Notre numéro, c'est le 04 67 60-68-03 et on est situé au 9 rue Guérard à Montpellier.
Donc une cinquantaine de bénévoles, vous nous avez dit, là, qui sont déjà peu ou prou engagés à vos côtés.
Exactement.
Très bien, bon vent à vous.
Merci.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.